Bonjour la Méditerranée, bienvenue comme chaque semaine dans Cantara, au micro Thomas Brunelli de France Bleu RCFM, Ajaccio en Corse et en direct de Tunis, Mayada Sili de Radio Tunis, chaîne internationale. Bonjour Mayada.
Bonjour Thomas, bonjour la Méditerranée, heureuse de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Cantara.
Alors Mayada, c'est un numéro spécial consacré entièrement aux problèmes environnementaux que nous proposons aujourd'hui à nos auditeurs.
Oui Thomas, il sera question de la qualité de l'eau mais aussi de l'air que nous respirons. Les 7 et 8 novembre se tiendra à Marrakech la COP22. Il sera question pour les chefs d'État et de gouvernement de mettre en œuvre les engagements pris à Paris lors de la COP21. Tous les continents sont concernés, comme nous le dira Nadira Belkhoutout. La Méditerranée était au cœur de la réunion du MEDAC qui s'est tenue il y a quelques jours à Ajaccio. Le MEDAC, le Mediterranean Advisory Council, est le conseil consultatif pour la pêche. Il regroupe une cinquantaine de pays. Pierre-Louis Alessandri s'y est intéressé. L'Algérie s'engage sur la voie des énergies renouvelables. Le programme gouvernemental actualisé vise une production de 22 000 mégawatts à l'horizon 2030 pour le marché national. Le reportage est signé Amel Azib de la rédaction d'Alger Chaîne 3.
Parmi les conséquences de la pollution de l'air, la santé et le développement futur des fœtus et des enfants, Madrid s'est dotée d'un protocole d'alerte et de réaction, comme nous le dira Iman Ouinzar. Comme chaque année à cette époque, la fumée résultant de l'incinération de la paille de riz s'élève dans le ciel du Caire. Les efforts pour mettre un terme à cette source de pollution sont jusqu'à présent restés vains. Vous entendrez le docteur Nesrine Choukri au micro de Mona Farid de Radio Le Caire. Enfin, pour la Tunisie, il sera question de bird watching, c'est-à-dire l'observation des oiseaux. La Tunisie est l'un des points migratoires les plus importants du monde. Près de 180 espèces ont été relevées. Nous irons faire un tour sur le lac Sud. Voilà pour le sommaire de Cantara. Cantara qui est une coproduction avec Radio Extérieure d'Espagne, Iman Ouinzar, Alger Chaîne 3, Linda Boidma, Rabat Chaîne Internationale avec Nadira Belkhoutout et Mohamed Chafoui, Radio Tunis Chaîne Internationale, vous l'entendez, Mayada Sili, Radio Le Caire avec Mona Farid et Dina Abdelmeguide, et RCFM, France Bleu RCFM, Radio Corse Fréquence à mort avec Pierre Marre, Pierre-Louis Alessandri et Thomas Brunelli. Et comme chaque semaine, Mayada, nous débutons avec une chanson et elle est marocaine.
C'est le jeune artiste Nasser Migri, originaire d'une grande famille d'artistes, qui interprète Brit Nefem, je veux comprendre.
Voilà, on a débuté avec une chanson marocaine. On reste au Maroc avec un événement mondial qui se prépare, Mayada.
Oui, la COP22 qui se tient du 7 au 18 novembre à Marrakech. Les chefs d'État et de gouvernement vont-ils tenir les engagements pris à Paris lors de la COP21? Les pays africains seront présents. Ils ne sont pas de grands pollueurs, mais ils subissent les effets des changements climatiques. Ils attendent des aides financières pour se doter de nouvelles techniques pour développer les énergies non polluantes. Reportage de Nadira Belkhoutout.
Du 7 au 18 novembre, le Maroc préside et abrite la COP22, la conférence des parties de la Convention cadre de l'ONU sur les changements climatiques. Le choix du Maroc n'est pas fortuit. Les réformes engagées chez nous dans le domaine des énergies renouvelables, notamment le solaire, l'interdiction de l'usage des sacs en plastique, la stabilité, la crédibilité du Maroc ont également contribué pour le choix du Maroc. Et depuis la COP21, officiels, ONG, experts africains, européens, latino-américains se sont déplacés au Maroc pour des concertations sur la COP22. Les enjeux sont importants, la COP22 doit mettre en place les leviers pour la concrétisation de la COP21. La dernière réunion en date, ici au Maroc, a réuni Salah Mzouar, président de la COP22, avec Ségolène Royal, la présidente de la COP21, et l'écologiste Nicolas Hulot. Ils ont parlé bien sûr des préparatifs et enjeux de la COP22.
Cette COP de Marrakech sera une COP, comme on l'a dit depuis le début, et qu'on est venu ensemble depuis le début. Une COP de la mise en œuvre, de l'implémentation et de l'action. L'urgence fait que l'action devient nécessaire. L'accord de Paris était un grand moment dans l'histoire. Et ce grand moment, il ne faut pas qu'il se traduise par un rythme lent. Tout le monde l'a compris. Et l'engagement a été fort. Cette rencontre d'aujourd'hui va nous permettre de faire le point. Beaucoup de choses ont été faites en une année, beaucoup d'avancées. Maintenant, on regarde tous vers l'avenir. Et cet avenir ne peut pas être autre chose que l'action, la mise en œuvre d'actions, de projets, les engagements des États sur leur contribution, la mise en place des dispositifs de financement, l'accompagnement pour le renforcement de capacités, l'appropriation des technologies. C'est autant de choses qui vont permettre à ce que cette ambition collective commence à se traduire sur le terrain.
C'est un moment très important qui est aujourd'hui préparé, qui va s'ouvrir dans quelques jours. Beaucoup de choses ont avancé depuis la conférence de Paris parce que nous avons travaillé très étroitement ensemble. Et je crois que c'est ce travail collectif qui est aujourd'hui en train de porter ses fruits, ses résultats. Et moi, j'ai toute confiance pour que la conférence de Marrakech soit un grand succès.
Il faut passer à la phase opérationnelle. Vous savez déjà que l'accord de Paris est essentiel mais insuffisant par rapport aux exigences climatiques. Mais le peu qui a été acté à Paris, il faut qu'il rentre en action dès maintenant. Donc la COP 22, ça doit être la COP des solutions. Comment va-t-on faire pour tenir les objectifs de Paris ? Comment va-t-on faire pour réduire d'un côté nos émissions de gaz à effet de serre ? Comment va-t-on faire pour restaurer les écosystèmes qui peuvent également nous aider à lutter contre le changement climatique ? Comment va-t-on faire aussi et surtout pour aider les hommes, les femmes et les enfants qui sont victimes des changements climatiques ? Et qui attendent depuis longtemps qu'on vienne à leur secours. Voilà. Donc maintenant, on doit rentrer des intentions à l'action. Et c'est pour ça que cette COP est essentielle, parce que doit démarrer maintenant la mise en œuvre de tout ce qui a été acté à Paris.
En interne, les campagnes de sensibilisation se poursuivent pour impliquer davantage les citoyens, qui sont bien sûr les tenants et les aboutissants des politiques publiques axées sur l'amélioration de l'environnement. Écoutons quelques points de vue.
Le citoyen marocain sera plus sensibilisé à propos de ce sujet qui est très important, l'environnement, par les panneaux publicitaires et les lois qui sont passées pour cette COP22 qui vont aider pour sensibiliser, oui, à propos de ce sujet. Que cette sensibilisation soit aussi portée pour les grandes usines qui polluent encore plus que les citoyens.
La COP22, il aura un effet si les acteurs de la COP, ils descendent sur terre, c'est-à-dire ils organisent des ateliers avec les citoyens. Parce que si la COP elle reste fermée, je pense qu'elle n'aura vraiment pas un grand effet sur la mentalité des citoyens, c'est-à-dire prendre la considération la composante environnementale dans leur vie.
Il y a plusieurs choses plus dangereuses que le plastique. J'espère que la COP22 va nous apporter quelques solutions. Donc j'espère.
La COP22 va permettre aux gens de redécouvrir les problématiques de l'environnement. Puis ça a permis déjà aux enfants, aux collégiens, aux lycéens de discuter ça à travers le train climat qui est en fait aujourd'hui qui est à Casa, qui a commencé de Rabat et qui est à Casa aujourd'hui. Donc la COP22 va vraiment nous permettre de discuter et de mettre en question nos problèmes environnementaux.
En tant que citoyenne du monde, j'espère bien que les chefs d'État qui seront présents à la COP22 ainsi que les acteurs de la société civile prennent des décisions surtout logiques en ce qui concerne l'environnement, parce que vraiment le monde souffre et va souffrir dans le futur.
La COP22, c'est à Marrakech, c'est un événement important, je dirais primordial hein, pour l'avenir de notre planète, Mayada, parce que c'est vrai qu'il y a eu des engagements qui ont été pris à Paris, mais vont-ils être tenus? C'est toujours un coup de poker hein, qui se joue dans ces réunions internationales, parce que c'est vrai parce que les accords de Paris portent sur l'effet de serre, pour aider aussi les populations victimes du réchauffement de la planète, pour protéger un peu l'écosystème, mais pour l'instant, les grandes nations traînent toujours des pieds.
Oui, et comme il a été dit, en tout cas dans ce reportage, ce sont les pays les plus vulnérables qui sont les premières victimes, alors qu'elles ne sont pas les premières responsables des changements climatiques, en l'occurrence les pays africains. Sur les 10 pays les plus menacés par les changements climatiques, il y a au moins 6 ou 7 qui sont en Afrique. Et c'est vrai que les pays industrialisés doivent jouer... pas le plus grand rôle, je dirais, mais un rôle très très important justement en aide technique et en soutien financier à ces pays menacés, enfin à ces pays et ces populations vulnérables. Et puis on le voit, en tout cas, les changements climatiques, ça se fait sentir hein, aujourd'hui, c'est pas dans 10 ans, c'est pas dans 100 ans, c'est vraiment aujourd'hui, ça se fait sentir sur la santé, sur la sécurité, sur les conditions météorologiques. Mais comme tu le dis, c'est vrai que on sait qu'aujourd'hui, l'accord de Paris, il engage tous les États et soutient donc tous les pays non responsables du réchauffement climatique en matière de transfert technologique et de financement de projets dans les pays les plus touchés. Mais cet accord ne peut entrer en vigueur qu'une fois qu'il est adopté par 55% des États. Et jusqu'à maintenant, il y a 80% États uniquement qui l'ont adopté. Je sais que la Tunisie vient de ratifier justement cet accord il n'y a pas très longtemps par l'Assemblée des représentants du peuple. Mais on entend justement que les engagements soient pris un peu plus au sérieux. C'est vrai.
Et puis bon, après, il faut se regarder et se tourner vers les grandes nations. On parle des États-Unis. C'est vrai que le résultat des élections aux États-Unis aura aussi une importance également, parce que Donald Trump, il nous fait un peu peur à plusieurs niveaux, y compris celui-ci. Et puis simplement une petite précision, et il faut le dire quand les choses sont positives. Bon, c'est vrai que le développement des énergies photovoltaïques avec le solaire, bon, c'est vrai que tout le monde a pris conscience que c'était important, surtout en Méditerranée. Mais lorsqu'on parle, et Nadira le disait, l'interdiction des sacs plastiques hein, dans les supermarchés, etc., eh bien, cette petite idée qui est très importante a pris à germer ici en Corse lors d'un festival qui s'appelait Festivent. Et c'est là qu'on a décidé, notamment pour la France, que les sacs plastiques seraient bannis des supermarchés. Je crois que c'est une très, très, très bonne chose. Allez, je parle de la Corse.
Ça sera banni en Tunisie à partir de 2017.
Eh bien, c'est bien. Allez, vive le recyclable. On est en Corse avec ce petit clin d'œil au Festival du Vent de Calvi. On reste parce que la Méditerranée était au cœur d'une réunion du MEDAC qui s'est tenue à Ajaccio. Le MEDAC, le Mediterranean Advisory Council, est le conseil consultatif de la pêche en Méditerranée. Il regroupe une cinquantaine de pays. Son siège se situe à Rome. Le MEDAC regroupe aussi des associations de défense de l'environnement et des professionnels de la pêche. On écoute le reportage de Pierre-Louis Alessandri.
C'est la première fois que l'organisation se réunit en France et elle a choisi la Corse sous l'impulsion de Gérard Rome, il dit président du Comité national des pêches et Corse. C'est donc Ajaccio qui a accueilli les participants. Le MEDAC a un rôle important sur la gestion de la pêche, sur ses aspects socio-économiques liés à la conservation des ressources en Méditerranée. Ses avis et ses propositions peuvent influer sur la mise en œuvre des politiques de pêche. La Méditerranée constate depuis longtemps un déficit en poissons dû non seulement à la pollution, mais à certaines pratiques. C'est pour cela qu'une politique des quotas a été instaurée par l'Europe, mais elle ne fait pas consensus au sein des pays européens, comme l'explique Gérard Rome. Il dit.
Ça va être difficile, mais on n'a pas le choix. Il faut qu'il y ait une unité de la façade méditerranéenne par rapport aux autres façades et par rapport à la politique commune des pêches. Et il faut qu'on arrive... justement à faire voir, à parler d'une seule voix. Alors avec les différences, il faut régionaliser bien sûr selon les régions, selon les puissances maritimes, mais on n'est pas les seuls à ne pas être en phase. Par exemple, on a des accords avec les Catalans qui ne sont pas en phase avec Madrid. Nous, on a des accords, mais on n'est pas en phase avec Rome ni Paris. Donc voilà, il faut arriver à faire, je dirais, une cartographie, une mosaïque de revendications de la pêche de Méditerranée, parce que il faut aussi connaître cette vision de la pêche méditerranéenne en englobant la façade sud. Ça ne sert à rien que l'Europe nous oblige à faire 5 à 6 mesures draconiennes qui vont faire disparaître encore du pêcheur, alors que dans Toute la rive sud, je parle Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Égypte, et on va jusqu'à la Turquie, si rien ne se passe, s'ils peuvent pêcher n'importe comment, sans quota, sans aucune contrainte.
L'Europe, c'est surtout une réglementation de la pêche, et souvent contraignante, qui peut provoquer des effets contraires, notamment au niveau de l'emploi. Les pêcheurs demandent donc une sorte de moratoire. Il faut aussi s'entendre avec les autres pays qui bordent la rive sud de la Méditerranée et qui, eux, ne sont pas soumis aux politiques européennes. Mais l'instabilité de beaucoup d'entre eux peut constituer un frein.
Et en plus, bon, il y a toute la partie, je dirais, immigration, qui fait face aussi et qui fait fi de toutes les lois. Donc nous pouvons apporter avec la pêche aussi du travail. Vous savez qu'un emploi en mer, c'est 4 emplois induits. Et la pêche ne connaît pas le chômage. Au contraire, on manque de marins. Donc je pense que cette vision est très importante de nos jours. Le Brexit aidant, ce n'est pas parce qu'on sort de l'Europe qu'on va faire du n'importe quoi. Parce qu'il y a les lois aussi internationales qui gèrent les mers. Et il faudra en tenir compte. Donc il faut peser le pour et le contre. Mais ce qui est très important, c'est que ce soit Paris, Madrid, Londres ou Athènes, qu'ils comprennent que aujourd'hui, nous, ce qu'on veut, c'est un arrêt. On veut le droit au travail et on voudrait un petit arrêt de 2 ou 3 ans des mesures techniques qui nous étouffent. Nous voulons travailler dans le respect de la ressource et s'inscrire dans une pêche durable et responsable. C'est ça le souhait de la profession aujourd'hui, enfin, du moins pour ce qui est de la profession que je représente au moins. Il faut vraiment une stratégie, je dirais presque de géopolitique économique du secteur, et la pêche doit être inscrite dans l'économie bleue.
En conclusion, l'Europe seule, on le voit, ce n'est pas suffisant. Il faut que les règles qui incitent à la protection des ressources naturelles de la Méditerranée soient partagées par tous les pays qui bordent notre mer.
Voilà la pêche avec ce reportage de Pierre-Louis Alessandri. Et c'est vrai, Mayada, qu'on voit une évolution, on voit la Méditerranée, en tout cas la faune et la flore, évoluer, changer. On trouve des poissons qui étaient dans la mer Rouge, qui ont pris le canal de Suez et qui sont montés en Méditerranée de plus en plus à cause du réchauffement de la planète. C'est des choses à prendre en compte. Mais c'est vrai que, comme le disait Gérard Romiti, qui est le président du Comité national des pêches en France, il n'y a pas de chômage chez les pêcheurs. On cherche des pêcheurs, c'est une activité qui a un avenir, mais c'est vrai aussi qu'il faut l'aider, et souvent les mesures qui sont prises au niveau européen aident plus la pêche industrielle que la pêche locale et artisanale. Et là, je crois qu'il faut revoir un peu le tir pour que cette pêche artisanale, qui est un peu une pêche bio, hein, si on prend un peu le paysage aujourd'hui, mais il faut l'aider, et c'est peut-être là l'avenir de ce secteur.
Oui, absolument. En tout cas, c'est ce que avancent plusieurs organisations, et notamment le Fonds mondial pour la nature, qui dit que l'avenir de la pêche en Méditerranée, cela passera par la pêche artisanale. Pourquoi ? Parce que les embarcations ont une taille réduite, et parce que les techniques de pêche, elles sont très ciblées.
Elles ne sont pas agressives, hein, pour les fonds, voilà. Et pour les coraux, notamment.
Absolument. Donc, elles réduisent les impacts sur le milieu marin et la biodiversité. Je dirais qu'en Tunisie, la pêche, elle est essentiellement artisanale, même si la pêche en Tunisie souffre aussi de nombreux problèmes, hein, comme sur la rive nord de la Méditerranée, la raréfaction des ressources, le manque d'application, surtout de la réglementation. Il y a plusieurs lois qui ont été promulguées pour minimiser la pollution en Tunisie, mais ce sont des lois qui ne sont pas toujours appliquées. Mais n'empêche que la pêche en Tunisie, c'est vrai, c'est une activité économique très importante. Dans certaines régions, c'est même une mono-activité. Je pense par exemple à l'île de Qarqna. Mais ce qui est bien, je dirais, ou peut-être, hein, je ne sais pas, un peu rassurant, c'est que la pêche artisanale, elle revêt ici une importance particulière. Elle emploie les 2/3 des marins en Tunisie et peut-être 90% de la flotte.
Et puis, il faut rendre hommage aux pêcheurs qui sont maintenant les gardiens, hein, de notre mer, de notre Méditerranée. C'est eux qui sont sur le terrain, mais sur l'eau, et qui surveillent. Oui. Alors, pour leur rendre hommage, on va écouter une chanson. Allez, une chanson du groupe Avileta, une chanson son corse. Son titre, I pescadori e o mare, ça veut dire les pêcheurs et la mer. On écoute Davidetta.
Mare, mare, senti l'omighi ti diama. Mare, mare, guardando a sto oceano. Ramanta di una oletta. Marina, brutta tada da ulive chun ki kurrava marina ramanta di nespume di lagna deramada di mille ganti e gridi allora il
C'était un hommage aux pêcheurs, i pescadori e o mare, les pêcheurs et la mer, Davidetta. Et après la Corse, nous partons pour l'Algérie, Mayada.
Oui, l'Algérie qui s'engage sur la voie des énergies renouvelables pour apporter des solutions globales et durables aux défis environnementaux et aux problématiques de préservation des ressources énergétiques d'origine fossile. Un programme ambitieux pour le développement de ces énergies a été adopté par le gouvernement algérien en février 2011 et révisé en mai 2015. Le programme actualisé consiste à installer une puissance d'origine renouvelable de l'ordre de 22 000 MW à l'horizon 2030 pour le marché national, avec le maintien de l'option de l'exportation comme objectif stratégique si les conditions du marché le permettent. Le 7e Salon international des énergies propres, des énergies renouvelables et du développement durable, ERA 2016, qui s'est déroulé à Oran cette fin octobre, se veut une occasion pour dynamiser ce programme qualifié de priorité nationale afin d'intéresser les potentiels investisseurs dans l'objectif de prolonger durablement l'indépendance énergétique de l'Algérie et générer ainsi une dynamique de développement économique. Reportage signé Amel Azib de la rédaction de la chaîne 3 qui a assisté à ce salon.
Atteindre les objectifs de produire 27% de l'énergie électrique à partir du renouvelable d'ici 2030 sera possible avec le concours de tous. Le ministre de l'Industrie l'a réitéré à maintes reprises en assurant par ailleurs que la transition énergétique était une ambition industrielle. Une assurance que plusieurs industriels intéressés par le développement du renouvelable ont besoin d'entendre et surtout voir appliquer sur le terrain. Le développement des énergies renouvelables en Algérie est à sa phase initiale alors que tous les ingrédients pour son essor sont réunis.
Nous sommes obligés d'accompagner ce créneau du monde de l'énergie photovoltaïque par la formation. Il faut investir dans l'élément humain. L'élément humain est la source clé de la réussite. Il ne faut pas oublier que le secteur du photovoltaïque dispose de plusieurs métiers. Nous disposons des compétences, l'expérience varie entre 20 à 30 ans et nous sommes là pour les aider.
Plus de 70 exposants participent au Salon de l'énergie renouvelable pour sa 7e édition 2016. Pour les professionnels du secteur, s'inscrit dans l'alternative de construire une économie diversifiée basée sur la filière des énergies renouvelables, une filière en construction qui motive en tout cas beaucoup d'investisseurs. C'est le cas de Neït Abdelaziz qui représente le patronat, mais il est aussi PDG de Brinkstonix Algérie.
Dans le domaine des énergies renouvelables, la difficulté majeure consiste à utiliser, à trouver de l'électricité au moment voulu, le stocker dans le système photovoltaïque et utiliser l'énergie quand on en a besoin, quand il fait nuit, quand il mauvais temps, etc. Comme ça. Nous sommes une société spécialisée dans le stockage d'énergie en système en lithium.
Si le salon a permis cet échange d'expériences entre professionnels, a-t-il dissipé pour autant les doutes autour de la volonté de créer ce marché du renouvelable? Beaucoup s'interrogent en fait sur les assises techniques et juridiques qui doivent être impérativement être créé et permettre à l'investisseur de démarrer son projet. Par exemple, à quelle instance présenter sa demande d'exploitation? Le discours présenté par Nourdine Bouterfa, le ministre de l'Énergie, a bien réaffirmé la volonté du gouvernement à mettre en place des mécanismes pour assurer notamment l'achat et le paiement de la production d'électricité. À l'épreuve du terrain, les choses ne sont pas mises en place. À l'heure où le monde avance à pas de géant, nous ne pouvons pas se permettre le luxe d'attendre, nous confier certains investisseurs. La filière filière des énergies renouvelables doit trouver sa place au plus vite.
Voilà, nous étions au Salon ERA 2016 à Oran avec Amel Lazib pour son reportage. Bon, l'énergie, les énergies renouvelables, hein, que ce soit l'éolien, le photovoltaïque, c'est l'avenir, hein, de notre planète. Et c'est vrai qu'un salon est important. Mais c'est vrai que la question que se posent tous les scientifiques, c'est le stockage des énergies. Parce qu'on peut stocker de l'eau, on peut stocker beaucoup de choses, mais stocker de l'électricité, c'est très compliqué. Il y a des piles pour cela, il y a des projets pour cela. Et je crois qu'il ne faut pas que cette énergie que l'on produit avec le voltaïque ou autre chose, eh bien, soit obligatoirement consommée instantanément. Il faut réussir à la stocker. Oui. Et si on réussit d'une manière industrielle à gagner ce pari, là, on aura fait un grand pas, hein, pour la préservation de notre environnement.
Oui, absolument. Pour revenir justement aux énergies renouvelables, de nombreux projets aussi qui sont en cours d'étude ici en Tunisie, qui vont concerner aussi la production indépendante des énergies renouvelables par le secteur privé notamment. Et puis la politique énergétique, si je peux dire, de la Tunisie, elle ambitionne de réaliser une transition énergétique climatique dans le sens d'une réduction des émissions de carbone et notamment à travers la lutte contre les impacts des changements climatiques sur les ressources en eau et sur l'agriculture. C'est ambitieux, en tout cas, il y a une ambition de réduire la consommation jusqu'à 30% à l'horizon 2030, mais on reste quand même optimiste.
Eh oui, on le reste, on est là pour ça. Allez, on va passer à l'Espagne et le reportage de Imanol Hazard. C'est vrai que la pollution des eaux, des plages, c'est quand même quelque chose qui est important, qui est visible, mais on s'intéresse un peu moins à la contamination de l'air que nous respirons. Des experts ont relevé la semaine dernière que cette contamination influe grandement sur la santé et le développement futur des fœtus et des enfants. Et Madrid s'est dotée d'un protocole d'alerte et de réaction. Les bornes de relevé sont enfin placées à des endroits permettant réellement d'être informés sur les mesures prises. On écoute le reportage d'Imanol Hazard.
Madrid suffoque. Le voile de contamination s'étend, s'épaissit. D'ailleurs, il y a des jours où ce que les Madrilènes appellent avec leur gouaille habituel la boina de Madrid, le béret de Madrid, tend à devenir un véritable sombrero mexicain. Mais trop, c'est trop. Et la mairie de Madrid a dû activer en toute urgence le protocole d'action en cas de pic de dioxyde de carbone. Dimanche 30 octobre.
El Ayuntamiento de Madrid ha activado el protocolo de contaminación debido a los índices detectados de dióxido de carbono y por tanto desde las 6 de la mañana de hoy domingo la velocidad en la M30 y en los accesos queda restringida a 70 km por hora.
La mairie de Madrid a activé le protocole de contamination en raison des taux de dioxyde de carbone relevés et par conséquent, aujourd'hui dimanche, à partir de 6h du matin, la vitesse sur le périphérique M30 et au niveau des accès est restreinte à 70 km/h.
Y además, desde el Ayuntamiento de Madrid, en la medida de lo posible, pedimos a los ciudadanos que prioricen el uso del transporte público sobre el transporte privado.
De plus, depuis la mairie de Madrid, nous demandons, dans la mesure du possible, à la population de privilégier le transport en commun par rapport au transport individuel. La météorologie s'annonçant de plus contraire, pas de pluie en perspective, la phase 2 et la phase 3 restent plausibles. Autrement dit, la restriction du stationnement en zone périphérique et l'interdiction de stationnement dans le centre, hormis aux résidents, puis des mesures encore plus drastiques d'accès à la ville, alternance des matricules pair et impair et stationnement en périphérie. Et comment va-t-on le savoir ? Le 31 octobre, Paz Valiente, directrice de la durabilité et qualité environnementale de la mairie de Madrid.
Todas las noches hacemos públicas y se puede ver además online en la aplicación de calidad del aire del ayuntamiento cuáles son los valores que se dan y además yo sí recomiendo que todo el mundo que pueda se dé de alta en el sistema de SMS porque así tendréis información absolutamente puntual al mismo tiempo que nosotros en qué momento se inicia un determinado o se pasa de escenario, ¿no?
Toutes les nuits, nous annoncerons les mesures pour le lendemain. De plus, il y aura les données online avec les applications de qualité de l'air de la mairie. On connaîtra les méditions. Et de plus, je recommande à tous ceux qui le peuvent de s'inscrire au système de SMS et ainsi, vous aurez une information absolument ponctuelle en même temps que nous-mêmes dès que des mesures seront prises. Généralement opposés sur pratiquement tout, l'équipe municipale et le gouvernement régional font ici cause commune et pour éviter les déplacements en véhicule privé, la communauté de Madrid a pris des mesures pour augmenter dans les jours prochains, critiques, de quelques 400 000 les places disponibles en transport interurbain et surtout en train de banlieue. Au cours de sa conférence de presse, Paz Valiente s'adresse directement à la presse sans faux fuyant.
Yo lo que sí quisiera es que entrara y sobre todo, si es posible, en la concienciación de la gente de que esto es un tema de salud.
Moi, ce que je voudrais, c'est que vous focalisiez, si possible, sur la conscientisation des gens, sur le fait qu'il s'agit d'une question de santé. Curieusement, personne ne rechigne, pas même les madrilènes. On nous les a changés. Vous savez que le protocole de contamination a été déclenché?
Bueno, pues que si es una medida necesaria, tendrá que ser aplicada.
Pour ceux qui auraient pensé aller dans la Sierra du nord de Madrid, qu'ils oublient ce plan puisque la contamination se déporte justement sur la Sierra Nord qui, à certains moments, se retrouve avec une qualité de l'air pire qu'en plein trafic du périphérique. Ironie de l'histoire.
Nous étions à Madrid avec Imanou Hazard et c'est vrai que l'air est pollué. Et là, il y a eu un pic hein, partout en Europe, en tout cas en Europe du Sud. Ça a été le cas pour la Corse, ça a été le cas pour l'Espagne, parce qu'il y a des vents qui sont venus du Sud avec du sable, etc. Et ça a donné cette espèce de chape de plomb. Imanou disait que ce n'était pas un béret, c'était un sombrero qui s'abattait sur les villes. C'est un peu ça. Et c'est vrai qu'il faut prendre des mesures rapides justement pour éviter que cette pollution n'augmente due à la circulation automobile ou à au transport en général, ces alertes-là, il faut les mettre en place. C'est ce que fait Madrid, par texto, par annonce, par message, par les réseaux sociaux aussi. Mais ça, c'est des urgences. Là, ce n'est pas de traiter le problème à son origine, mais c'est de pallier un peu les conséquences fâcheuses que cela pourrait entraîner. On en est là. Les villes sont polluées, les campagnes sont polluées, parce que le vent, bien sûr, pousse tout ça sur l'ensemble du territoire. Voilà, donc il faut peut-être s'intéresser à la source de pollution. Ça, je crois que c'est la solution, n'est-ce pas, Maëlle?
Oui, absolument. Allez, on va rester en Espagne. María José Hernández chante des textes du chanteur-compositeur aragonais José Antonio Labordeta, des chansons moins connues que les célèbres Canto a la Libertad ou Banderas Rotas, reprises dans toutes les grandes manifestations, y compris celle qui s'est déroulée le jour de l'investiture en protestation à l'abstention des socialistes. María José Hernández dans Cuídate.
Guárdate de los cielos sin ojos ni ventanas, guárdate de los mares cubiertos de escafandras, guárdate de las voces sin risas ni esperanzas, de los hombres de mirada vana, guárdate de los libros sin lecturas ni palabras, guárdate de las viejas historias trituradas. Guárdate de las noches que rompen las mañanas, guárdate de las manos que mueren en las trampas, guárdate de las voces que gritan en la nada, de los campos heridos por la rabia, guárdate de la lluvia que borra las montañas, guárdate de la aurora que llaman las campanas.
C'était Cuidate que nous a choisi Iman Ouanzar. Et maintenant, Mayada, direction l'Égypte.
Oui, comme chaque année, à cette époque, la fumée résultant de l'incinération de la paille de riz a recommencé à s'élever dans le ciel du Caire. Mais sa gestion publique est un échec. Pendant des années, les ministres de l'Environnement successifs ont inauguré des stations de recyclage qui ont fermé leurs portes les unes après les autres. Quels sont les efforts déployés pour résoudre ce problème? Réponse avec Dr Nesrin Chokri, spécialiste au micro de Mona Farid.
Chaque année, pendant le mois d'octobre, la fumée résultant de l'incinération de la paille de riz s'élevait dans le ciel du Caire. Les agriculteurs se débarrassent ainsi après la récolte des déchets de la culture de riz. Mais cette pratique est une source notoire de pollution atmosphérique contre laquelle le ministère de l'Environnement est supposé lutter, sans grand succès jusqu'à présent. Sur 3 millions de tonnes de paille produites chaque année, seules 500 000 tonnes sont recyclées. Quels sont les efforts déployés par le gouvernement pour résoudre ce problème? Réponse avec Dr Nesrin Chokri, spécialiste au micro de Mona Farid.
Il est clair que le gouvernement, depuis plusieurs années, avait chargé le ministère de l'Environnement à prendre des mesures pour contrôler le problème du smog ou de la fumée noire. Et on avait entendu dire il y a quelques années que le ministère prévoit d'utiliser la paille de riz dans certaines industries, entre autres le ciment. Cette année déjà, pour la première fois, on a entendu parler de certains organismes locaux qui ont l'intention de fabriquer du papier à partir de la paille du riz. Et par conséquent, ils vont acheter la paille du riz des paysans et faire en sorte que les paysans ne brûlent pas chaque année au mois d'octobre la paille de riz. Il faut savoir que la paille de riz peut être exploitée d'abord pour fabriquer du papier, mais aussi pour fabriquer de l'alimentation pour le bétail, et que le gouvernement, si véritablement il y a une véritable volonté, peut mettre en sorte une stratégie pour éradiquer ce problème dans les prochaines années.
Quelles sont les villes ou les gouvernorats qui sont spécialement affectés par cette fumée noire?
Alors en fait, si on parle du Caire, mais c'est aussi Giza, Sharqiya, Gharbiya, c'est-à-dire que la majorité des gouvernorats du Delta où le riz est cultivé, et bien sûr, suite à cela, la paille est brûlée, et par conséquent, c'est pas seulement ces gouvernorats qui payent le prix, mais aussi les gouvernorats voisins. Et comme le Caire a sur ses frontières plusieurs gouvernorats agricoles, il est parmi les villes d'Égypte qui payent un grand prix, mais c'est pas le plus grand prix, parce que des gouvernorats comme Sharqiya ou Gharbiya, véritablement, le prix est beaucoup plus élevé, parce que c'est là vraiment où la paille de riz est brûlée.
Mais est-ce que le gouvernement a pénalisé de façon ou d'autre cette la brûlure de cette paille de riz?
En fait, pénaliser n'est pas toujours une solution, parce que on a toujours pénalisé des choses en Égypte et finalement les gens faisaient et agissaient à leur propre convenance et leur propre gré. Il faut pas seulement pénaliser, même si c'est pénalisé, ça ne sert à rien, puisque même si ça a été pénalisé, ça n'a pas permis de mettre en place une solution. Loin de penser à pénaliser, il faut s'en sortir et regarder autrement la situation, d'une vision un peu futuriste, comment ces paysans qui souffrent déjà d'une situation financière assez difficile peuvent trouver une solution. Et par conséquent, mettre en place des projets serait beaucoup plus logique et utile et bénéfique aux paysans et à la société que de pénaliser.
Et vous trouvez que le gouvernement est sur la bonne voie depuis l'apparition de ce problème et jusqu'à présent, ça a diminué ou bien...
En fait, je ne crois pas qu'il a été sur la bonne voie dans toutes les dernières années, parce que quand même le problème perdure depuis presque une décennie. Donc c'est une décennie pour régler un problème si simple et si compliqué à la fois, c'est quand même une longue période. Mais je pense qu'il y a une volonté réelle de la part du gouvernement actuel à mettre en place une solution, d'autant plus que le gouvernement actuel est surtout un gouvernement qui est basé sur la création et la mise en place de grands projets ou de projets gigantesques. Vous savez, chaque gouvernement a son mot-clé en Égypte. Le gouvernement, par exemple, de l'ancien régime déchu de Moubarak avait le mot-clé de l'infrastructure. Ce gouvernement, il veut surtout se baser sur infrastructure et projet, mais le côté projet est très fort et par conséquent, je m'imagine bien qu'on verra la mise en place de projets qui pourront réexploiter la paille de riz dans surtout la fabrication de papier ou peut-être l'alimentation de bétail. Et je veux garder vraiment assez d'optimisme pour croire qu'il y aura un changement dans les prochaines années.
Nous étions en Égypte avec ce reportage de Monia Farid. Alors la paille de riz, ça c'est une chose que j'ai découvert, Mayada. Je ne savais pas que ça provoquait une telle pollution, parce que c'est vrai que c'est plusieurs millions de tonnes qui partent en fumée chaque année et seulement 500 000 tonnes sont recyclées. Alors c'est difficile à régler selon les autorités, on a entendu les témoignages par tous les gouvernements qui se sont succédés, en tout cas tous les ministres qui se sont succédés. Alors est-ce qu'il y a un problème identique en Tunisie, ma chère Mayada?
C'est pas un problème des pailles de riz, mais on a un problème de gestion des déchets en Tunisie.
Ah, mais ça, vous savez, tu sais, partout, hein, c'est partout pareil. Il faut trier.
Absolument. Mais il y a des moments où ça devient vraiment urgent et on se dit qu'il faut absolument améliorer la stratégie de gestion des déchets parce que il y a des villes où ça devient vraiment problématique. Je pense que oui, il faut encourager et valoriser le recyclage des déchets. Il faut valoriser et favoriser la participation du privé. Il ne faut pas que ça soit uniquement du domaine public. Et il ne faut pas oublier non plus la responsabilité du citoyen dans tout ça. Parce qu'on a
c'est
l'impression
au centre
que...
de tout.
Oui. Absolument.
Il faut trier. C'est vrai que c'est un geste qui est un peu compliqué au départ, mais après on s'habitue. Après, il faut ensuite que tout ce qui est derrière suive, hein, qu'il y ait une organisation de récolte des déchets, de tri des déchets, mm-hmm. de revalorisation des déchets. Mais c'est vrai que, tu as raison de le dire, c'est le citoyen qui est au centre du dispositif.
Mm-hmm. Il y a d'ailleurs des sanctions et des pénalités et une police environnementale verra prochainement le jour en Tunisie en 2017. On y reviendra certainement dans les prochains numéros de Kantara.
Bravo. Allez, on reste en Tunisie, qui est l'une des destinations idéales pour l'observation des oiseaux ou le bird watching. Peu de gens le savent, on peut y observer jusqu'à 180 espèces d'après les guides ornithologiques, surtout pendant les mois de mars et de juin. L'un des ponts migratoires les plus importants du monde, Mayada, nous amène au lac sud de Tunis, visiter un précieux parc ornithologique méconnu du public et pour lequel les ONG s'engagent pour l'aménager dans le cadre d'un projet écotourisme qui ambitionne de mettre en valeur cette réserve et cette zone humide d'importance internationale. On écoute ton reportage, Mayada.
Le lac sud de Tunis, ou la TP4, est un site qui fait environ 50 hectares. Il est situé entre la ville et le golfe de Tunis et divisé par le canal de navigation qui relie la Goulette à Tunis. Ce site est inscrit depuis janvier 2013 par la liste Ramsar comme zone humide d'importance internationale et il est classé depuis 1998 comme zone importante pour la conservation des oiseaux par BirdLife International. L'association des Amis des Oiseaux a lancé il y a plus de 2 ans un projet pilote du lac Sud. Estimant que le site est actuellement exposé à la convoitise et à la destruction de ses composantes naturelles en l'absence d'une stratégie concertée pour sa conservation et sa valorisation. En partenariat avec d'autres associations, ils espèrent mettre en place et développer un projet écotouristique qui ambitionne de développer l'activité d'observation des oiseaux et qui inclura aussi des produits culturels. Asma Yahyaoui de l'association Les Amis des Oiseaux nous en parle.
En fait, ce site, il a une historique intéressante. Il a été une décharge des eaux usées, des déchets et tout. Il a eu des problèmes d'eutrophisation, de mortalité des poissons. C'est pour cette raison qu'il y a eu des projets d'assainissement, d'aménagement aussi, des dragages, pour améliorer la situation de ce site. En fait, après ces aménagements, il y a eu une amélioration de la circulation d'eau et on a eu délibéré de ces problèmes. Mais il y a eu des problèmes d'une diminution du nombre des oiseaux. C'est pour cette raison qu'il y a eu une conservation d'une zone, c'est la zone humide TP4. En fait, là-haut, elle essaie de développer un circuit de birdwatching dans ce site pour pouvoir promouvoir la biodiversité qu'on peut trouver dans ce site. En fait, l'axe sud de Tunis il peut nous donner aussi une diversité très importante de paysages. On peut trouver au plein centre-ville, au plein centre urbain, des paysages de montagne, des paysages des oiseaux d'eau qui viennent ici pour hiverner, pour chercher de la nourriture en fait. En plus de ça, on peut trouver aussi des activités de pêche. On peut trouver les pêcheurs qui sont en train de chercher leur source de vie. C'est pour cette raison, le lac sud de Tunis, il est très important pour le conserver.
On dit qu'on peut voir ici des espèces sur toute l'année.
Oui, exactement. Sur toute l'année, on peut avoir une vingtaine d'espèces d'oiseaux doux sur toute l'année, ce qui est très intéressant en fait. Et en plus de ça...
Qu'est-ce qu'on peut voir par exemple? Là, on est en train de voir par exemple des flamants roses.
Oui, il y a des flamants roses aussi, il y a les... trois espèces d'hérons qu'on peut observer ici, telles que les Great Garzet. Il y a aussi une espèce d'hérons cendrés. On peut trouver aussi les canards. Il y a plusieurs espèces de canards. Je peux citer le canard colvert. On peut trouver aussi des espèces marines telles que le goéland, des différentes espèces de goélands. On peut trouver aussi les petites oiseaux de rivage qu'on appelle les limicoles, qui viennent ici pour hiverner. Je vais mentionner aussi que ce site se trouve dans le voie de migration de plusieurs espèces qui viennent de l'Europe pour arriver en Afrique et peuvent rester aussi au lac sud de Tunis pour passer l'hiver.
Il y a aussi un volet pédagogique dans ce projet. Vous essayez à chaque fois de ramener des enfants aussi.
Oui, exactement. Le lac sud de Tunis, il constitue une sorte de laboratoire pédagogique qu'on peut avoir prochainement en fait. On essaie toujours d'amener un certain nombre de enfants pour leur faire découvrir cette biodiversité, aussi pour faire une sorte de classe verte au plein centre-ville. C'est les enfants en fait, en général, ils apprécient ce genre d'activité et une sorte de leur sensibiliser de l'importance des zones humides.
Dernière question, et les Tunisiens en général, est-ce qu'ils sont un peu sensibilisés à l'importance de préserver ces zones et surtout à visiter et apprécier par exemple ce genre d'activité comme le birdwatching?
En fait, on est un peu loin de ça, mais on essaie toujours de faire de la sensibilisation, de la communication sur l'importance des zones humides. Et
ça va changer?
Espérons, oui.
Une belle promenade au lac sud. On a envie d'y aller, Mayada, voir tous ces flamants roses, ces hérons, ces canards, ces colverts et même ces goélands. C'est une promenade bucolique aussi, hein.
Oui, voilà, on termine effectivement ce numéro avec une promenade. Et ce qui est surprenant, c'est que les Tunisois, en tout cas les habitants de Tunis, ne connaissent pas ce parc ornithologique. C'est un peu surprenant, mais
comment
bon.
Comment ça se fait? Il est loin du centre de Tunis?
Il est pas loin. Il est entre la banlieue sud et le centre-ville et le centre-ville de Tunis. Mais c'est un parc qui a toujours été délaissé parce que ça a été une décharge à un moment donné. Et donc, voilà, il n'est pas connu. Les gens ne savent pas que dans ce parc, justement, dans cette zone humide, il y a des milliers d'oiseaux qu'on peut observer de mars jusqu'à juin. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, les associations se mobilisent. Alors, il y a l'association des Amis des Oiseaux, mais il y en a d'autres parce que ce sont plusieurs associations, en fait, qui se sont regroupées pour développer ce projet d'écotourisme qui, en fait, ambitionne la préservation de ces parcs et de ces sites fragiles. Donc, faire connaître ce patrimoine naturel, mais aussi jouer un petit peu, si je peux dire, les surveillants ou les gardiens de ces centres naturels.
Allez, Tunisois, Tunisoises, allez-y, allez visiter ce parc. Allez, on va rester en Tunisie pour écouter cette chanson que tu nous as choisie, Maïda.
Oui, cette semaine, je vous propose en fait un jeune compositeur qui se fait connaître en tant que musicien sous un pseudo. C'est le pseudo de Roula. Et Roula, en tunisien, ça veut dire monstre, en fait. Il a composé plusieurs mélodies pour le cinéma et pour la publicité, et ces dernières années il s'est créé aussi son propre style. C'est un mélange d'électro-folk oriental, une musique en tout cas qui lui a permis d'avoir et de se faire une place sur la scène alternative tunisienne. Bahed Touechkit, c'est un morceau aux épices maghrébines. On va l'écouter tout de suite, un extrait de l'album Hlib Roula.
Señala para
Voilà, c'était Goulard, le monstre, étant l'époque d'Halloween, c'est bien, ça collait bien. Allez, on commence, comme chaque semaine, notre agenda culturel, Mayada, et on commence avec l'Espagne.
Oui, la télévision espagnole fête ses 60 ans par, entre autres, l'émission d'un timbre commémoratif et de nombreux programmes spéciaux. Née en 1956, elle a formé l'essentiel de ceux qui, par la suite, iront aussi nourrir les TVE régionales et plus tard les privées. Un anniversaire qui arrive, certes, dans un contexte difficile, à un moment où les médias publics sont partout, au mieux sommés de se redéfinir, au pire de disparaître.
Un anniversaire, un bon anniversaire aussi à Radio Tunis, chaîne internationale, qui a fêté ses 78 ans il n'y a pas si longtemps, Mayada.
Absolument, c'était le 15 octobre en fait. La radio, c'est la radio publique tunisienne, hein, pas la radio internationale. Et ça, on a célébré effectivement les 78 ans de la radio publique.
Allez, vient de paraître l'ouvrage de l'historien Jawab Kambib, juif et musulman au Maroc, des origines à nos jours, une synthèse de l'histoire depuis le 9e siècle et une référence sur les spécificités du judaïsme marocain. Les communautés juives, partie intrinsèque de la société marocaine, font partie de l'histoire du Maroc. L'ouvrage est publié par la maison d'édition Talendier.
Les journées cinématographiques de Carthage 2016 ont eu lieu du 28 octobre au 5 novembre. Au programme de cette 27e édition, il y a eu les JCC City, une programmation spéciale dans 14 régions avec des projections dans les salles à ciel ouvert, aménagées spécialement pour cette session cinquantenaire. 68 films, documentaires et fictions étaient en compétition. Le cinquantenaire des JCC a réservé aussi le prix du 50e au cinéaste tunisien Farid Bourdir pour sa passion pour la cinéphilie et son engagement pour le 7e art et les JCC en particulier. Et une série d'hommages a également été rendue à des cinéastes et hommes du cinéma décédés, dont en particulier Kalthoum Bornaz, une cinéaste disparue en 2016 et considérée parmi les pionnières des femmes cinéastes en Tunisie. En plus de l'Égyptien Youssef Chahine, le Sénégalais Djibril Diop Mambet, le Burkinabé Idrissa Ouedraogo et l'Iranien Abbes Kiarostami.
18e festival du film italien du 5 au 13 novembre au Palais des Congrès d'Ajaccio. 17 films sont au programme. Tous les genres seront proposés avec un bel effort sur la comédie, le genre le plus prisé par les fidèles du festival. Invité spécial cette année, le cinéma de Sardaigne. 18e festival du film italien du 5 au 13 novembre au Palais des Congrès d'Ajaccio. Voilà, avant de terminer ce numéro spécial Kantara consacré à l'environnement, il faut rappeler, Mayada, que Kantara est une coproduction.
Oui, Kantara est une coopération entre RTCI, Alger Chaîne 3, Rabat Chaîne Internationale, Radio Le Caire, Radio Extérieur d'Espagne et RCFM. Ce numéro est donc terminé. Je remercie Wafé Bouzaïdek qui était à la réalisation. Merci Thomas.
Voilà, ici la réalisation et à Ajaccio, il y avait Simon Guérin. Et puis, il ne faut pas oublier de nous suivre sur les réseaux sociaux et de jeter un œil à notre page Facebook, Kantara, pour y retrouver tous les sujets à développer et écouter ou réécouter notre magazine. Voilà, c'est terminé. Merci à tous de l'avoir suivi. Au revoir Mayada, à la semaine prochaine.
Au revoir et à la semaine prochaine.